Merci d'écouter RFI et bienvenue si vous nous rejoignez. Il est midi en temps universel, 14h à Paris.
RFI midi, Anne Cantner.
C'est l'heure du journal. Bonjour Simon Bourtembourg.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
À la une, la dernière ligne droite en vue du second tour des législatives en France.
Et une question, à quoi ressemblera la future Assemblée nationale? Dans le camp présidentiel, comme dans celui du nouveau Front populaire, le désistement a été la règle pour faire le barrage au Rassemblement national. Les manœuvres en vue d'éventuelles alliances sont en cours. Gabriel Attal menait lui ce mercredi à ce qui devrait être son dernier conseil des ministres. Dans l'actualité également, les craintes d'une nouvelle attaque d'envergure dans la bande de Gaza. Des milliers de Palestiniens fuient dans le sud de l'enclave après un ordre d'évacuation émis en début de semaine par Israël. Joe Biden essaye de sauver les meubles après son débat raté face à Donald Trump. Les doutes du camp démocrate sur l'état de santé du président augmentent. Il justifie sa fatigue par ses derniers déplacements internationaux. Et puis, gagner plus, mais à condition de travailler plus. La Grèce instaure cette semaine la semaine de travail à 6 jours. Le dispositif fait, nous le verrons, l'objet de nombreuses critiques.
RFI Midi, la France à midi.
Un gouvernement issu d'une grande coalition, un gouvernement provisoire, les idées fusent à 3 jours du second tour des législatives en France.
Avec l'objectif de barrer l'accès du pouvoir au Rassemblement national, la coalition présidentielle et le nouveau Front populaire se sont entendus dans la majorité des circonscriptions pour que le candidat le moins bien placé se retire en cas de triangulaire avec l'extrême droite. Le Front républicain anti-RN a bien eu lieu à quelques exceptions près. Reste une question désormais, comment éviter le blocage si aucun parti ne décroche la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Xavier Bertrand des Républicains appelle à la formation d'un gouvernement provisoire sans Jean-Luc Mélenchon à sa tête, assure de son côté l'insoumis François Ruffin. De son côté, dans le camp présidentiel, l'idée d'une coalition semble coincée. Insoumis et macronistes apparaissent irréconciliables. Charlotte Urien-Thomaca, le dernier conseil des ministres du gouvernement Attal, s'est tenu ce mercredi matin. Il s'agit donc sûrement la dernière réunion des ministres sous ce format-là.
Oui, c'était sans doute la dernière fois que l'on voyait potentiellement ces ministres-là. Un conseil qui s'est tenu dans une drôle d'ambiance et un curieux moment à la sortie sur le perron de l'Élysée. Des ministres qui tentent de donner le change. La ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, qui lance aux journalistes en descendant les marches que l'ambiance était formidable. On a du mal à y croire. Le président de la République aurait eu un mot pour chacun de ces ministres et surtout les ministres candidats aux législatives et qui se sont désistés. L'ambiance était correcte et pas crépusculaire selon un participant et une incertitude sur la composition du gouvernement la semaine prochaine, un gouvernement Bardella, un gouvernement d'union ou bien le même que ce matin si aucune majorité ne se dégage à l'issue du second tour des législatives. En tout cas, il n'y a pas eu de nomination controversée en Conseil des ministres comme Marine Le Pen a pu l'évoquer en parlant de coup d'état administratif et un Conseil des ministres est toujours à l'agenda lundi prochain.
Charlotte Urien-Thomaca, merci à vous.
Dans cet entre-deux tours des législatives, les sportifs français continuent de prendre position.
Le dernier en date, le cycliste Guillaume Martin, actuellement sur les routes du Tour de France. Le coureur de l'équipe Cofidis s'est montré inquiet à l'issue du vote de dimanche. Depuis le début de l'Euro de football en Allemagne, certains joueurs de l'équipe de France profitent également des conférences de presse pour faire passer des messages. En début de semaine, le défenseur Jules Koundé appelait à faire barrage au Rassemblement national en dénonçant un parti qui souhaite diviser les Français. Un avis partagé par Aya Sissoko, ancienne sportive de haut niveau, triple championne du monde et de France de boxe. Elle doit prendre part au relais de la flamme olympique dans une dizaine de jours. Avec le Rassemblement national au pouvoir, peut-être qu'elle passerait son tour. Aya Sissoko s'est confiée au micro d'Aram Beng.
Je ne reconnais pas ma France. Je ne peux pas concevoir, en fait, je ne peux pas accepter, en fait, c'est inacceptable d'entendre une telle libéralisation de la parole raciste, de la parole antisémite, de l'homophobie, en fait, qui s'exprime de manière aussi libre, en fait, décomplexée. Je ne peux pas l'accepter. En fait, j'ai grandi, en fait, dans le 20e arrondissement, qui est aussi un carrefour, en fait, de culture, un carrefour de nationalité, un carrefour de langue, un carrefour de plein de cultures. J'ai baigné dans ça, en fait. La tolérance, c'était quelque chose d'indolore pour nous. Parce que, en fait, le partage faisait partie de notre quotidien. En fait, l'altérité faisait partie de notre quotidien. Donc, oui, je le concède. Pour moi, à l'idée, en fait, de porter une flamme olympique avec un parti d'extrême droite au pouvoir serait très difficile. Et je ne sais même pas si je porterais la flamme, si on avait un parti d'extrême droite au pouvoir.
Un témoignage d'Aya Sissoko, championne du monde et de France de boxe. L'ouragan Beryl s'apprête à toucher la Jamaïque, puis les îles Caïmans. Ce cyclone d'une rare violence a fait 7 morts dans le sud-est de l'archipel des Caraïbes. Premier ouragan de la saison, il a un temps été classé en catégorie 5, la plus élevée, avec des vents supérieurs à 250 km/h.
La Maison-Blanche tente de contenir l'incendie face à la flambée d'angoisse sur la santé de Joe Biden.
Le camp démocrate est en ébullition à quelques mois de la présidentielle. Les poids lourds du parti commencent même à s'interroger publiquement sur l'état de forme de Joe Biden. Si la mèche avait été allumée dès le début de la campagne par Donald Trump, c'est le débat d'entre-deux-tours entre les candidats qui a mis le feu aux poudres. Le président américain est apparu très affaibli. Il a reconnu tardivement une fatigue liée à ses déplacements internationaux. Vincent Souriau.
C'est Karine Jean-Pierre, la porte-parole de Joe Biden, qui le dit. La Maison-Blanche veut tourner la page. Les absences du président pendant le débat, ses phrases sans queue ni tête, ses raisonnements inintelligibles, non, rien à voir avec la maladie d'Alzheimer, une quelconque forme de démence ou de sénilité.
Je n'y vois aucun symptôme de maladie, j'y vois ce qu'il s'est passé. La veille du débat, il a eu une mauvaise nuit et par-dessus le marché, il a attrapé froid.
La présidence renvoie au bilan de Joe Biden ces 3 dernières années, à son énergie, sa combativité lors du discours sur l'état de l'Union au mois de mars, et martèle que même les chefs d'État peuvent traverser de mauvaises passes.
Cette année, le président a donné plus de 40 interviews. Je parle d'interviews improvisées. Et il a participé à plus de 500 réunions publiques improvisées. Et ça, on veut continuer à le faire.
La dernière carte de la Maison-Blanche, le terrain. L'équipe de Joe Biden promet qu'il va reprendre son bâton de pèlerin, repartir à la rencontre des Américains, afin qu'ils se rendent compte par eux-mêmes de son véritable état de santé.
Vincent Souriau. Un échange de prisonniers à venir entre talibans et Américains. Des discussions sont en tout cas en cours, selon un porte-parole des autorités talibanes. Deux Américains détenus en Afghanistan pourraient être libérés contre des Afghans emprisonnés dans le centre de détention de Guantanamo.
Des bombardements israéliens aujourd'hui encore sur la bande de Gaza.
Après avoir annoncé il y a 10 jours que la fin de la phase intense de la guerre était proche, Benjamin Netanyahou affirme que cela ne sera possible qu'après la destruction du Hamas et la libération de tous les otages. Depuis, par crainte d'une nouvelle opération d'envergure, des milliers de Palestiniens font route vers le sud de l'enclave. De nouveaux ordres d'évacuation ont également été émis par Israël à Rafah et Ran Younes. Ils concerneraient 250 000 personnes selon l'ONU. Écoutez ces témoignages dans la bande de Gaza recueillis par Sami Bourhelifa.
Ils fuient de nouveau par milliers, à pied ou entassés à l'arrière de camions, épuisés, éreintés par des mois de guerre. Une population démunie condamnée à errer dans un territoire assiégé. Il faut démonter les tentes de fortune, emporter les matelas, les couvertures. C'est une malédiction, un exode sans fin, raconte Hadja Fatma.
Ce n'est pas une vie. Cette guerre nous prive de sommeil, d'eau, de nourriture. On doit tout le temps fuir. On est comme des nomades, sauf qu'on n'a nulle part où trouver refuge. Nous vivons une succession de déplacements forcés.
Dans le ciel, les chasseurs bombardiers israéliens. Les cibles, Rafah et Khan Younes dans le sud. Le nord de la bande de Gaza n'est pas non plus épargné. Shujaïa, Jabalia, c'est là que vit Hafez.
Ici, la souffrance est notre lot quotidien. Je n'arrive pas à trouver de la nourriture pour mes enfants et ça me fait mal à l'âme. Il nous reste quelques conserves de pois chiches. Nous les donnons aux enfants comme si c'était des médicaments. Quelques grains à chaque repas. Le monde entier voit ce qui se passe ici. Et pourtant, on se sent bien seul.
Je ne sais pas quelles valeurs, quels principes régissent ce monde. Je ne sais pas au nom de quelle idéologie ou religion cette souffrance nous est infligée. Gaza est un cimetière peuplé d'orphelins et de mutilés, conclut le père de famille. Sami Bourhelifa, Jérusalem. RFI.
L'armée russe revendique aujourd'hui la prise d'un premier quartier de la ville clé de Tchassiviar, une cité stratégique dont Moscou cherche à s'emparer dans l'espoir de faciliter une percée. Plus au centre de l'Ukraine, au moins 4 civils ont été tués dans une attaque russe ce mercredi sur la grande ville de Dnipro. 27 autres personnes ont été blessées. Le précédent bilan officiel de cette attaque faisait état de 3 morts. Ces frappes russes ont par ailleurs endommagé un centre commercial et une station-service.
À contre-courant d'une grande partie de l'Europe, la Grèce passe à une semaine de travail de 6 jours.
Il sera possible de travailler jusqu'à 48 heures par semaine. En contrepartie, les salariés concernés gagneront plus. Cette mesure du gouvernement conservateur est justifiée par la diminution de la population et la pénurie de travailleurs. Correspondance à Athènes de Joël Bronner.
Alors que certains pays d'Europe de l'Ouest, à l'image de l'Allemagne, mais aussi de la France, s'interroge régulièrement sur l'opportunité de la mise en place d'une semaine de travail de seulement 4 jours, la Grèce, elle, tente à prendre la direction opposée. Sous certaines conditions, la semaine de 6 jours était déjà une réalité pour les Grecs qui travaillent dans le secteur du tourisme ou de la restauration. Depuis lundi, sont aussi concernés par cette nouvelle mesure les salariés des entreprises qui fonctionnent 24 heures sur 24 et celles qui peuvent justifier d'une surcharge de travail. Dans ce cas de figure, le sixième jour est payé à l'employé 40% de plus qu'un jour normal, et encore davantage si ce jour est un dimanche ou un jour férié. Pour Athènes, il s'agit de lutter contre le travail non déclaré et d'aider les entreprises qui peinent à faire tourner leurs équipes, en cause entre autres la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Dans un pays durablement appauvri par une décennie de crise économique, le quotidien d'opposition Efsin s'agace. La vie chère et les bas salaires poussent les salariés à l'acceptation d'un sixième jour de travail, au détriment, conclut le quotidien, de leur qualité de vie. Joël Brunner, Athènes RFI.
Microsoft va investir plus de 2 milliards d'euros dans des data centers en Espagne, de quoi renforcer les ambitions de la région d'Aragon, qui ambitionne donc de devenir un centre névralgique de l'informatique dématérialisée. Cette enveloppe porte à près de 7 milliards d'euros le montant total des investissements prévus par le groupe américain dans cette région du nord-est de l'Espagne.
La traque de criminels de guerre syriens, c'est aussi le sujet du film Les Fantômes de Jonathan Millet.
Il est cinéaste habitué aux documentaires, a signé un premier film qui avait fait sensation au festival de Cannes en mai dernier. Les Fantômes, l'histoire d'un jeune syrien sur la piste de son bourreau. Écoutez les explications d'Elisabeth Le Quéré.
C'est un thriller sans effet de manche, un film d'espionnage qui joue avec les nerfs. Sur le campus de l'université de Strasbourg, Hamid se dit étudiant. En réalité, c'est un rescapé de la prison de Saïdnaya à Damas. Et il est sur les traces de son ancien bourreau dont le visage lui est inconnu, puisque le sien, pendant les interrogatoires, était recouvert par un sac. Jonathan Millet.
En fait, pour un projet documentaire, je rencontrais à ce moment-là beaucoup de réfugiés de guerre syriens. Il y a vraiment eu des exactions commises par le régime et par Bachar el-Assad. Le fait qu'elle n'ait pas été reconnue par le tribunal pénal international, notamment, amène tous ceux qui l'ont vécu à avoir du mal à revenir vers la vie. Et donc, je crois que ce qu'ils cherchent d'abord, c'est la parole, c'est leur statut de victime et c'est la justice.
Je ne peux pas rester ici.
Tu ne peux pas arrêter là.
L'acteur Adam Bessa donne au personnage une gravité, une intériorité quasi douloureuse que le cinéaste explore avec finesse et acuité, traçant avec virtuosité le portrait d'un homme que sa recherche conduit aux confins de la folie.
Elisabeth Le Quéré.
Un mois après Microsoft, c'est au tour de Google de voir ses émissions de gaz à effet de serre bondir.
En cause, l'intelligence artificielle très gourmande en énergie. L'entreprise vient de publier son rapport environnemental pour l'année 2023 et les chiffres sont mauvais. Bonjour Simon Rosé.
Bonjour Simon.
Simon, ces chiffres sont plombés par la consommation d'énergie dans les centres de données qui abritent les serveurs informatiques indispensables à l'IA.
Et oui, les émissions du groupe ont progressé de 13% l'an dernier. En 5 ans, c'est plus 50%. En 2023, les activités de Google ont émis plus de 14 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, c'est l'équivalent d'un pays comme la Moldavie. De quoi compromettre les objectifs de l'entreprise en la matière, c'est ce qu'on lit dans ce rapport. Google vise la neutralité carbone en 2030, un cap désormais qualifié d'extrêmement ambitieux, en cause notamment, vous le disiez, les investissements massifs dans l'intelligence artificielle et les centres de données qui l'accompagnent, très énergivores. On estime ainsi que l'IA consommera elle seule près de 5% de l'énergie mondiale à horizon 2030, si son développement se poursuit tel qu'anticipé. Un autre géant de l'information, Microsoft admettait il y a 2 mois également que la stratégie d'investissement du groupe dans l'intelligence artificielle compromettait ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est d'ailleurs qu'un des nombreux effets négatifs de cette technologie. On peut ainsi citer la consommation en eau utilisée pour refroidir les centres de calcul. Là aussi, les estimations donnent le tournis. Au rythme actuel, le secteur devrait consommer près de 7 milliards de tonnes d'eau chaque année à partir de 2027, presque 2 fois plus qu'un pays comme la France.
Merci à vous Simon Rosé. Et puis pour fermé ce journal, un mot des intempéries meurtrières en Birmanie. 6 personnes ont trouvé la mort dans des inondations et des pluies diluviennes qui ont frappé le nord-est de l'Inde et le Bangladesh. Enfin, plus de 240 000 habitants ont dû être évacués dans l'est de la Chine après des fortes pluies qui se sont abattues dans une grande partie du pays.
Merci Simon Bourtembourg. 14h15 ici à Paris, on va parler tout de suite de l'actualité sportive. Bonjour Martin Guez.
Désolé, il n'y a pas que des Simon dans le studio. Bonjour Anne, bonjour.
Maintenant, on est un
tous.
Peu déçus. Ouais, on va commencer par,
la prochaine fois.
Par du football et l'Euro qui se poursuit en Allemagne. Les choses sérieuses commencent maintenant et le menu des quarts de finale est désormais complet.
Et oui, un 4/4 avec un ingrédient surprise aux saveurs turques. Les coéquipiers d'Arda Güler qui sont venus à bout de l'Autriche grâce à 2 passes décisives du gaucher du Real. Grâce à 2 coups de tête du défenseur central Meri Demiral. Grâce aussi au gardien Femi Günok, auteur de l'arrêt de sa vie à la dernière seconde du temps réglementaire. Je vous invite à aller voir ça sur les réseaux sociaux. Anne, c'est très impressionnant. Et puis Gregoric qui avait réduit l'écart sur corner pour l'Autriche. Ça n'a pas suffi. Victoire 2-1 de la Turquie qui file donc en quart de finale.
Des Turcs fortes têtes qui retrouveront des Pays-Bas revigorés.
Ah oui, des oranges qui reprennent des couleurs, qui repartent à la hausse. Pas le troisième du groupe D. Les Néerlandais qui ont finalement fait voler en éclats la défense roumaine en huitième de finale. Dans tous les bons coups, Cody Gakpo, l'ailier de Liverpool qui a d'abord été buteur, puis ensuite passeur. Malen qui a inscrit un doublé pour un carton 3-0 des Pays-Bas sur la Roumanie. Et son coéquipier Denzel Dumfries savourait ce franc succès après la rencontre.
Je suis très fier de la prestation de l'équipe. Nous avons bien joué, nous avons joué avec beaucoup de concentration. Nous nous sommes créés énormément d'occasions. Nous aurions pu plier l'affaire plus tôt. C'est un peu de ma faute. D'ailleurs, j'ai péché dans le dernier geste. Mais dans l'ensemble, je suis fier de l'équipe parce que nous nous sommes battus jusqu'à la fin en démontrant tout le talent qu'il y a dans cette sélection. Les leçons du match face à l'Autriche ont été retenues. Nous avons beaucoup échangé la semaine dernière. Ça s'est vu dans notre pressing, dans notre conservation du ballon en sortant du match face à l'Autriche. Nous n'étions pas satisfaits et cette fois nous avons été bons.
Enfin satisfaits, Denzel Dumfries, les Pays-Bas qui retrouveront la Turquie ce samedi. Pour le reste, Anne, l'Allemagne qui rencontrera l'Espagne pour le choc des quarts de finale vendredi, avant le remake de la finale de 2016, France-Portugal. Ce sera à Munich ce vendredi toujours. Antoine Grenier y sera pour nous faire vivre ce match au sommet sur RFI dès 19h temps universel. Enfin, l'Angleterre affrontera la Suisse samedi à Dortmund, 16h TU. Et là aussi, ce sera à suivre sur RFI.
On reste sur le gazon, pas celui des pelouses allemandes, mais sur les courts anglais avec la suite du tournoi des Wimbledon.
Et le très classieux tournoi londonien qui se poursuit. Au programme aujourd'hui, le début du deuxième tour et puis la météo anglaise qui est fidèle à sa réputation. Il pleut sur Londres aujourd'hui. Le début des rencontres a donc été repoussé. Aucune n'a d'ailleurs commencé, ce qui devrait nous donner en fin de journée un bel affrontement entre deux papis de la raquette. Le français Gaël Monfils d'un côté et ses 37 printemps. Et oui, on est papis très jeunes au tennis face c'est à l'éternel dur, Helvète. C'est toujours très dur en sport. L'éternel Helvète Stanislas Wawrinka, 39 ans au compteur. Stan, comme l'appellent ses amis. Donc Gaël Monfils fait partie. Il faut dire que les deux hommes se connaissent très très bien, comme nous le confie le Suisse.
Nous nous connaissons plus que bien, ça fait plus de 20 ans et nous sommes des amis très proches. Nous avons fait toutes sortes de choses en dehors du tennis. Nous nous sommes beaucoup entraînés ensemble, donc ça a toujours été une bataille difficile entre nous sur le terrain. Nous aimons toujours jouer l'un contre l'autre. Nous savons que ce sera intense, que ce sera un grand match et que le perdant sera heureux pour le vainqueur. Donc j'espère que je vais gagner bien sûr, mais il s'agira de prendre les bonnes décisions, d'être rapide et le match ira à celui qui trouvera la façon d'être le plus agressif sur le terrain.
Voilà, Stan Wawrinka et Gaël Monfils, deux papis, deux amis de plus de 20 ans. Ils s'affronteront tout à l'heure.
À suivre aussi le numéro 1 mondial, Yannick Sinner.
Qui défiera son compatriote italien Matteo Berrettini. Et puis chez les femmes, l'américaine Coco Gauff, deuxième mondial, rencontrera la roumaine Todoni. Chez les françaises, Clara Burel et Varvara Grashera seront tout à l'heure sur le pont. Grasheva, pardon, la première contre la britannique Kartal, la seconde face à l'ukrainienne Yamstremska.
Et on termine par du cyclisme et le retour du roi sur le Tour de France.
Et ce n'est pas du cinéma, même si son attaque dans le Galibier hier relevait presque de la fiction. En tout cas, le scénario donne le beau rôle au Slovène Tadej Pogacar sur cette grande boucle 2024. Lui qui a repris son bien, il tentera de conserver son maillot jaune lors de la cinquième étape entre Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Vulbas. On reste en montagne donc. Pogacar qui compte 45 secondes d'avance au général sur le Belge Remco Evenepoel et 50 sur le double tenant du titre, le Danois Jonas Vingegaard.
Merci Martin Guez. L'actualité sportive, c'est aussi sur internet, vous le savez, rfi.fr.
RFI. Le Monde à midi.
Nous parlons de la Turquie maintenant, secouée par des manifestations, des émeutes même contre des Syriens installés dans le pays. Des commerces, d'autres biens ont été attaqués brutalement par des groupes d'hommes et nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé avec notre invité. Bonjour Max Valentin Robert.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste de la Turquie. Alors, l'événement déclencheur a été l'arrestation d'un Syrien soupçonné de harcèlement sur une enfant. Ces violences ont-elles d'autres racines plus profondes ?
Oui, alors il y a d'autres racines qui expliquent ce soulèvement de violence à l'encontre des réfugiés syriens en Turquie. Alors tout d'abord, il y a des éléments contextuels à préciser. Du fait d'un désaccord entre l'armée syrienne libre et la Turquie par rapport à la décision qu'envisagerait la Turquie de normaliser ses relations avec le régime d'Assad. Il y a eu une série d'actions commises par l'armée syrienne libre qui a suscité la colère de la population turque, notamment des tirs sur des représentations du drapeau turc qui ont profondément choqué la population. Et par ailleurs, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la présence des 4 millions de réfugiés syriens en Turquie est perçue parfois avec acrimonie par une partie de la population. Il y a certains dirigeants politiques turcs qui ont essayé de mettre à l'agenda l'hostilité envers les réfugiés syriens pour acquérir un certain capital au niveau électoral. On peut penser notamment à celui qui était le troisième homme de la dernière présidentielle en Turquie, Sinan Oğan, qui a eu un discours assez hostile aux réfugiés syriens durant sa campagne. Donc, ça s'inscrit dans un contexte plus large que l'événement que vous avez mentionné précédemment.
On a vu d'ailleurs sur certaines vidéos des émeutes, des attaques là de dimanche et du début de la semaine, des gens qui criaient « je ne veux plus de Syriens », on a vu ça sur des vidéos. Vous nous l'avez rappelé, la Turquie accueille des millions de réfugiés. Comment est-ce qu'ils vivent aujourd'hui ? Qu'est-ce que leur apporte la Turquie ?
Alors, en fait, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs camps de réfugiés syriens qui ont été installés au début de l'arrivée de ces flux de réfugiés au commencement de la guerre civile syrienne. Mais actuellement, seuls 10% des réfugiés syriens vivant en Turquie résident dans ces camps. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une diffusion de la population syrienne dans les grandes villes. Donc, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une présence plus accrue, une présence plus visible des Syriens dans certaines villes de Turquie. Et c'est notamment le cas dans certaines villes du sud-est, où la présence des Syriens se fait, et du sud-ouest également, pardon, où la présence de Syriens se fait de façon de plus en plus visible. C'est également le cas à Istanbul. Alors, la Turquie reçoit également des fonds de l'Union européenne pour à la fois intégrer les Syriens sur son sol, mais également contenir des velléités éventuelles d'émigration vers l'Europe de la part de ces réfugiés syriens. Ce dossier des réfugiés syriens est parfois instrumentalisé par Erdogan dans ses relations avec Bruxelles comme une sorte de levier de rapport de force, comme on le sait dans les relations entre la Turquie et Bruxelles.
Alors, est-ce que la situation que vous nous décrivez fait augmenter des violences xénophobes ? Parce que là, ça n'était pas les premières, mais est-ce qu'elles sont plus fréquentes et plus violentes contre les Syriens ?
Alors, que ça atteigne l'ampleur et la vivacité qu'on constate aujourd'hui, effectivement, c'est assez frappant et c'est assez inédit. Mais là où il faudrait relativiser, c'est qu'il y a eu d'autres événements de ce type dans le passé, notamment dans la région d'Izmir. Il y avait eu plusieurs fois des incidents et parfois même des violences collectives commises contre des réfugiés syriens de la part de la population locale. Il faut savoir qu'en fait, en Turquie, il y a, comme je disais précédemment, il y a plusieurs personnalités politiques qui ont essayé de mettre à l'agenda cette hostilité envers l'immigration syrienne. J'évoquais Sinan Oğan précédemment. On peut aussi citer le cas du Parti de la Victoire, du Mythos d'Ar, qui a essayé de faire campagne contre cette présence de l'immigration syrienne. Et aussi, chez une partie de la population turque, réside une angoisse d'ailleurs assez similaire à celle qu'on peut percevoir en Europe occidentale dans le discours de certains partis d'extrême droite, une crainte d'une subversion démographique migratoire par les réfugiés syriens. Ce qui n'est pas sans rappeler, comme je l'ai dit précédemment, le discours que peuvent tenir certains partis d'extrême droite en Europe occidentale sur le rapport à l'immigration par rapport à l'instrumentalisation de certaines angoisses sur le plan démographique.
Est-ce que la situation économique joue aussi ?
Oui, incontestablement. Alors, il faut savoir que la dégradation de la lire turque, le chômage, notamment le chômage des jeunes, les difficultés notamment d'accès au logement alimentent ce climat de xénophobie dans le sens où les réfugiés syriens sont perçus comme étant des concurrents potentiels, des concurrents notamment par rapport au dispositif d'aide sociale.
Ce qui alimente le genre de discours dont vous nous parliez à l'instant. Vous nous avez parlé tout à l'heure de l'ASL, de tension avec l'armée syrienne libre. Ça avait été le premier groupe à prendre les armes contre les régimes de Bachar al-Assad. Et on a pu voir là que les émeutes avaient des conséquences aussi de l'autre côté de la frontière. Il y a eu des manifestations, 7 morts, 4 postes frontières fermés, selon des observateurs. Est-ce que ça peut entraîner d'autres tensions, selon vous, entre certains groupes syriens et puis les autorités turques?
Alors ça peut effectivement entraîner certaines tensions, notamment parce qu'en fait ces tensions avec ces groupes syriens peuvent alimenter un climat de nationalisme au sein de la population. Après, là où il faut nuancer, c'est que le discours d'Erdogan lui-même est un discours plutôt le discours que porte Erdogan envers les réfugiés syriens est plutôt un discours manifestant des velléités d'intégration de cette minorité, au nom à la fois de considérations humanitaires, mais aussi de considérations idéologiques, au nom de la fraternité musulmane, au nom de la solidarité islamique. Il y a également des velléités proprement électoralistes de la part d'Erdogan en mobilisant cette question des réfugiés pour espère-t-il en faire plus tard des fidèles soutiens de l'AKP. Mais oui, ça peut, dans un contexte de montée des tensions, ça peut effectivement aggraver les relations entre certains groupes syriens et la Turquie, d'autant que lorsqu'on étudie l'opinion publique turque, on constate qu'elle est assez réticente vis-à-vis de cet engagement en Syrie. L'opinion publique turque est assez inquiète de voir la Turquie s'impliquer autant sur le terrain syrien, et donc du coup ça peut alimenter des tensions au sein de la population, puisqu'il y a quand même il y a une ambiguïté au sein de l'opinion publique turque, c'est-à-dire que l'opinion publique turque est assez fière lorsque la Turquie s'affirme sur la scène internationale, mais en même temps il peut y avoir une tendance isolationniste à considérer que s'investir trop dans les affaires de ses voisins, notamment ses voisins moyen-orientaux, ne peut attirer que des problèmes, y compris sur le plan intérieur.
Merci Max-Valentin Robert, docteur en sciences politiques et spécialiste de la Turquie, d'avoir été en ligne avec nous pour nous aider à y voir plus clair. Merci beaucoup. C'est un petit événement au Japon. Pour la première fois depuis 20 ans, de nouveaux billets de banque entrent en circulation et pour la première fois dans le monde, ils sont dotés d'un hologramme en 3 dimensions pour éviter les contrefaçons. On pourrait croire que c'est plutôt anecdotique, mais pas du tout. Les protestations sont très nombreuses, les consommateurs inquiets à cause d'une particularité japonaise, Bruno Duval.
On dénombre plus de 4 millions de distributeurs automatiques au Japon, soit 1 pour 31 habitants, record mondial. Le montant annuel de leur vente est faramineux, 41 milliards d'euros. Problème, contrairement aux distributeurs de billets de banque, ces machines que l'on trouve à tous les coins de rue n'accepteront pas les nouvelles coupures mises en circulation. Pas dans un premier temps, en tout cas. Car il faut d'abord adapter leurs capteurs qui lisent et reconnaissent les billets. Mais les fabricants de distributeurs étant débordés, l'opération prendra des mois. Cela ne rassure pas ces tokyoïtes.
Dans les gares, pourra-t-on utiliser ces nouveaux billets pour acheter un ticket, un automate ou mettre ses bagages à la consigne? Ce n'est pas garanti, semble-t-il.
À la laverie automatique ou dans les parkings, par exemple, ce ne sera pas pratique si on ne peut payer qu'avec des pièces.
Moi, ça ne me posera pas de problème puisque je paie tout par carte ou avec mon smartphone. Mais la plupart des gens continuent de régler en liquide.
En effet, au Japon, 60% des achats sont réglés en espèces. C'est dû notamment au fait qu'un habitant sur 3 est âgé de 65 ans ou plus. Or, bon nombre de seniors ne gèrent pas, techniquement, le paiement par smartphone via un code QR ou des applications dédiées. Des centaines de milliers de petits commerçants nippons sont vent debout contre ces nouveaux billets. Les restaurateurs, par exemple. Car dans la plupart des tavernes ou des snacks, le client choisit et paye son repas au moyen d'un distributeur situé à l'entrée qui affiche les menus servis. On appuie sur le bouton correspondant au repas désiré, on insère les billets et la machine délivre un ticket. Ça fait gagner un temps précieux au personnel en lui évitant de devoir manipuler de l'argent. Mais les études montrent que la plupart de ces distributeurs de tickets n'accepteront pas les nouveaux billets. Ces deux restaurateurs ne décollèrent pas.
Mon distributeur va être adapté pour pouvoir accepter les nouveaux billets, mais ça ne sera pas fait avant la fin décembre, m'a dit le fabricant. Du coup, j'ai dû engager un intérimaire pendant 6 mois pour tenir la caisse, parce que moi, je suis seul en cuisine. Donc je n'ai vraiment pas le temps de m'occuper de ça.
Sur le distributeur de tickets, j'ai apposé un avis prévenant les clients qu'ils n'acceptaient que les vieux billets. C'est pas glorieux, mais je n'ai pas le choix. Ma trésorerie ne me permet pas de faire adapter cette machine.
Modifier les capteurs d'un distributeur coûte cher, 600 000 yens, plus de 3 000 euros. Quant aux machines les plus anciennes, elles ne peuvent pas être reformatées. Elles devront donc être remplacées, dont coût 2 millions de yens, 11 000 euros. Une perte sèche pour les restaurateurs, qui sont déjà pris à la gorge par l'envolée du prix des produits alimentaires, donc par la hausse du coût des ingrédients qu'ils utilisent dans les plats mitonnés pour leurs clients, ce qui réduit d'autant leur marge bénéficiaire. Bruno Duval, Tokyo, RFI.
À Tokyo, il est 21h29. Merci d'être avec nous sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, Vous m'en direz des nouvelles est à Avignon avec Jean-François Cadet.
Gwenaël Morin se lance à l'assaut du Don Quichotte de Cervantes et éprouve l'esprit chevaleresque du grand théâtre de la vie. Tandis que dans Après les ruines, Bernard Sinapi et ses artistes européens racontent l'exil en mêlant fiction et documentaire, musique live et jeux d'ombre.
Vous m'en direz des nouvelles ? Rendez-vous avec Jean-François Cadet du lundi au vendredi à 15h10 TU.
RFI.